Quatrième semaine, on va finir le survol de la Genèse. Alors on a vu la première partie de la Genèse, les 11 premiers chapitres. On a parlé du commencement de l'univers. Commencement, Dieu créa le ciel et les cieux et la terre et les cieux. Si on a compris ça, on a compris beaucoup de choses. On a compris que Dieu existe et que Dieu nous a tout créé, donc il nous a créé aussi. Ça veut dire que c'est lui qui sait comment on fonctionne. Ça veut dire que c'est lui, dans sa parole, qu'on peut trouver la façon de vivre, la bonne façon de vivre. Et c'est dans sa parole aussi qu'on découvre son amour infini pour nous. Cette première partie de la Genèse, on a vu des grands événements, donc la création, la chute de l'homme, c'est-à-dire le péché originel. On a parlé du déluge. Alors, il a promis qu'il ne le referait plus, donc on peut se rassurer. On a parlé très rapidement de la tour de Babel. Ça, c'était un épisode que mes enfants aimaient bien que je leur raconte, parce que j'essayais de leur expliquer comment ça avait pu se passer. Les gens étaient en train de construire cette tour, parce qu'ils voulaient se faire... Quelle était la raison pour laquelle ils faisaient une tour, si vous vous souvenez? En fait, c'est vrai qu'il voulait toucher les cieux, mais il est dit qu'il voulait se faire un nom. Et ça, c'est l'orgueil de l'homme qui veut se faire aussi grand qu'un dieu. Et donc, il a mélangé les langues là, à ce moment-là. Et je me rappelle, je leur disais, il y a un tel qui demande à l'autre de lui passer un marteau, une scie, et l'autre qui lui dit, non merci, j'ai déjà pris deux sucres dans mon thé. Ça a été l'échec de leur entreprise. Et Dieu doit sans arrêt humilier l'homme qui veut se faire comme Satan, qui veut se faire aussi grand que Dieu. On a vu la naissance, après le déluge, on a vu la naissance des nations. Cette période, les 11 premiers chapitres, ça couvre à partir de... Et là encore, bien sûr, tout le monde n'est pas d'accord sur la littéralité du texte biblique. Mais ça couvre une période de 2000 ans quand on commence à raconter les événements. Et puis là, le reste de la Genèse, qui comporte 39 chapitres, en fait, ça va ne couvrir qu'une période de 300 ans. Donc c'est beaucoup plus détaillé. Et maintenant, on va se concentrer sur la famille d'Abraham. Et cette partie, elle va davantage parler de personnes que d'événements. Cette période remonte probablement à 2000 ans avant Jésus-Christ. Et on pourrait croire que ces histoires sont trop anciennes, trop vieilles pour être intéressantes. Et nous qui vivons 4000 ans plus tard, on se demande à quoi ça sert de lire et de connaître ces événements. Mais vous vous souvenez, l'apôtre Paul nous disait dans 1 Corinthiens 10, on peut regarder ensemble, qui montre tout l'intérêt de toute la parole de Dieu, 1 Corinthiens 10. Versets 1 à 12. Il parle donc à des gens au premier siècle de notre ère, et leur dire « Frères, je ne veux pas que vous l'ignoriez. Nos pères ont tous été sous la nuée. Ils ont tous passé au travers de la mer. Ils ont tous été baptisés à Moïse dans la nuée et dans la mer. Ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Et ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était le Christ. » Mais la plupart d'entre eux ne furent pas agréables à Dieu, puisqu'ils tombèrent morts dans le désert. Or, ce sont là des exemples pour nous, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ne devenez pas idolâtres comme certains d'entre eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons pas à l'inconduite comme certains d'entre eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons pas le Seigneur comme le tentèrent certains d'entre eux qui périrent par les serpents. Ne murmurez pas comme murmurèrent certains d'entre eux qui périrent par l'exterminateur. Cela leur est arrivé à titre d'exemple et fut écrit pour nous avertir, nous pour qui la fin des siècles est arrivée. Ainsi donc, que celui qui pense être debout prenne garde de tomber. Et donc, à plusieurs reprises dans la Bible, il est indiqué que toute l'histoire de la biblique est là pour nous servir d'instruction. Encore une fois, rien n'est écrit au hasard, rien n'est inutile dans la Bible. On a même vu qu'une partie qu'on trouve souvent ennuyeuse, les généalogies, en fait, elles ont une grande valeur. Et on a cité plusieurs exemples. Et on va parler d'Abraham. Et personnellement, en fait, l'histoire de cet homme m'a influencé, a eu un impact sur ma vie. C'est drôle, hein? Mais j'étais arrivé, c'est vrai, je travaillais aux États-Unis, je vivais à Seattle, j'allais à Calvary Fellowship, une très bonne église, avec des gens super, et j'avais aucun désir de changer. J'avais une petite maison qu'on avait commencé à acheter, j'avais deux enfants, une femme formidable, et tout allait bien. Et puis j'ai commencé à me demander si le Seigneur voulait pas que je revienne en France, parce que quand je revenais en France, je ne trouvais pas d'église comme j'avais connu. Et je me disais, oui, peut-être que le Seigneur voudrait m'appeler à faire quelque chose, peut-être travailler dans une église ou être membre dans une église. Et en fait, ça c'était un peu ce que je sentais sur le cœur. Et puis il y avait ma raison qui disait, non, c'est stupide, regarde, tu as 40 ans, j'avais déjà 40 ans, il faut être raisonnable, tu as une femme et deux enfants, tu as un bon métier, tu peux aider l'église avec ton salaire, tu peux supporter des missionnaires. Et puis, j'étais vraiment dans une phase de questionnement, est-ce que c'est vraiment ridicule ou est-ce que c'est vraiment ce que le Seigneur veut que je fasse? Et puis, j'essayais de faire des listes avec tous les plus dans un sens, tous les moins, puis j'essayais de dire, Seigneur, montre-moi vraiment. Et puis un jour, aux États-Unis, on tourne la radio, on a plusieurs radios chrétiennes, et j'ai écouté un sermon par quelqu'un qui s'appelle Chuck Swindoll. Chuck Swindoll, il avait un sermon sur la vie d'Abraham, et le titre de son sermon, c'était « Par la foi, il était parti sans savoir où il allait ». Et il décrivait plutôt la situation d'Abraham qui avait été appelé à partir par Dieu, et qu'il avait fait par la foi, sans savoir où il allait. Et ce pasteur, prédicateur à la radio, disait, en fait, peut-être que parmi les gens qui écoutent, il y en a qui se demandent qu'est-ce qu'ils doivent faire. Et peut-être qu'il y en a qui se disent, j'ai l'impression que Dieu me demande d'aller quelque part. Comment il sait ça? Et puis il disait, peut-être c'est quelque chose qui vous semble un peu farfelu, et puis, mais vous ne pouvez pas chasser l'idée. Et vous y pensez, vous y pensez, vous y repensez. Et puis il disait, est-ce que vous voulez arriver à 70 ans en vous demandant si c'était bien le Seigneur qui vous avait demandé, et qu'est-ce qui serait passé si vous aviez obéi ce qu'il vous demandait de faire? Et là, ça m'a vraiment parlé, parce que j'ai dit, oui, si jamais c'est vraiment le Seigneur qui m'appelle à partir, et que je ne le fais pas, quand j'aurai 70 ans, la fin de ma vie, je me dirai, tiens, si j'étais parti, si j'avais écouté. Et donc ce sermon, partir sans savoir où on va, quand on se sent appelé par Dieu, à partir de l'exemple d'Abraham, c'était un facteur très important pour me décider à dire « bon, ben je pars, je quitte mon travail, je quitte la sécurité de l'emploi, entre guillemets, parce que 2 ans plus tard, je suis revenu, il y avait eu des fusions avec d'autres entreprises, il y a eu beaucoup de gens qui avaient été renvoyés ou qui n'avaient pas été réembauchés dans la nouvelle entreprise. » Et donc, cette vieille histoire d'Abraham, alors ça ne veut pas dire, bien sûr, je vous rassure, je ne me suis pas pris pour Abraham, que j'étais comme Abraham, mais c'était un exemple, et ces choses sont écrites pour nous servir d'exemple. Si on trouve quelque chose dans la Bible qui nous parle, et qui nous, c'est pas seulement une fois, et on peut prier avec d'autres, j'en avais parlé à mon pasteur, j'en avais parlé à des amis chrétiens, j'en avais parlé à ma famille en France, qui disait complètement, t'es devenu fou, là, c'est du bourrage de crâne, c'est de la folie, tu as 2 enfants, une femme, tu as un bon travail, une bonne situation, comme on disait. Mais Abraham m'a, et par l'intermédiaire de ce pasteur, m'a donné le petit coup de pied au derrière que je devais recevoir. Et c'est drôle parce qu'en fait, J'ai trouvé sur Facebook que ce pasteur avait un site, il y avait son nom. Et donc je lui ai fait un petit mot en lui disant qu'en fait, il y a une 20aine d'années, je pensais que son sermon sur Abraham m'avait aidé à partir et à venir en France. Et je lui ai dit aussi que quand la première fois que je l'entendais à la radio, je croyais qu'il ressemblait un personnage de la télévision qui était un personnage comique, Father Guido Sarducci. I don't know if you remember Saturday Night Live. Et donc il a répondu, et maintenant il est mon ami. Un petit parenthèse Facebook. Ces textes donc ont toujours une actualité pour nous aujourd'hui. Et encore une fois, juste un petit rappel, on a vu les chapitres 1 à 2, c'était la création, 3 à 5, c'était la chute, 6 à 9, c'était le déluge, et 10 à 11, c'était les nations. Aujourd'hui, on va voir les chapitres 12 à 23, c'est l'histoire d'Abraham, 24 à 27, c'est Isaac, 28 à 36, c'est Jacob, et 37 à 50, c'est Joseph. Le passage clé, c'est dans la Genèse 12, donc on va regarder, si vous pouvez prendre la Bible, on va parcourir, on va souligner plutôt certains passages. On a vu une grande promesse dans la première partie de la Genèse, quelle était cette promesse? Quelqu'un se souvient de la promesse qu'on a vue? Ce qu'on a appelé aussi le proto-évangile, l'évangile primitif, la victoire de la postérité de la femme, Christ, sur celle du serpent, Satan. C'est Genèse 3,15. Donc, dès le départ, dès la chute, Dieu avait promis qu'il y aurait une victoire de Christ sur Satan. En termes moins précis que ça, puisqu'il parlait de la postérité de la femme qui allait vaincre la postérité du serpent. L'autre grande promesse, on va la lire ensemble dans... On va lire les 3 premiers versets du chapitre 12. Alors je passe là l'histoire de le chapitre 11, donc on a vu la tour de Babel, les descendants de Noé, Sem, Cham et Japhet. Et après on a parlé de la roue des nations ou de l'histoire de toutes les nations de la terre remonte à ces trois patriarches. Verset 12, chapitre 12, verset 1. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père vers le pays que je te montrerai. » Et puis là, il a une promesse. « Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Deviens donc une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai celui qui te maudira. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Une prophétie, une promesse de bénédiction pour Abraham. Est-ce que vous pouvez me dire quelles sont les conditions à cette promesse, d'après ces trois versets ? Partir ? Quoi d'autre ? Ouais, devient une source de bénédiction. Mais en fait, c'est vrai qu'il faut, il faut qu'il se mette en route. Mais d'une certaine façon, cette alliance, on parle de l'alliance avec Abraham, comme de l'alliance abrahamique, vous entendrez ce terme des fois. En fait, elle est inconditionnelle. Une fois qu'il décide d'obéir à Dieu, qu'il se met en mouvement... C'est vrai qu'il lui dit « deviens une source de bénédiction », mais il lui dit « je bénirai ceux qui te béniront ». Encore une fois, j'ai fait ce serment sur Nombre 6, que Dieu est un Dieu qui bénit. C'est lui qui disait aux prêtres de donner cette bénédiction de l'Éternel au peuple, pour que le peuple sache que Dieu veut bénir, Dieu bénit. Et là, il veut bénir Abraham. Là, c'est encore Abraham, mais on verra qu'il va devenir Abraham. Il va faire de lui une grande nation. Une fois qu'il sera mis en mouvement, il va le bénir. Il va rendre son nom grand. Il va le rendre fameux, célèbre. Et lui demande d'être une source de bénédiction aussi. Et puis... il dit « Je bénirai ceux qui te béniront, ceux qui te maudiront, je les bénirai, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Alors là, il n'y a pas encore de peuple. Abraham est toujours sans enfant, mais il lui fait cette promesse et lui demande d'être une bénédiction, donc de bénir aussi ceux qui sont autour de lui. Et ça, c'est peut-être le grand reproche que Dieu va faire à la nation juive par la suite, les descendants d'Abraham, c'est qu'ils ne vont pas bénir les nations autour d'eux. Au lieu de donner la bonne nouvelle du Dieu qui bénit, du Dieu qui aime les hommes, ils vont garder les bénédictions de Dieu en quelque sorte pour eux-mêmes. Au lieu d'en faire un sujet d'obéissance, ils vont en faire un sujet de fierté nationale. Ils vont penser qu'ils sont mieux que les autres parce que Dieu les a choisis. Alors pour l'instant, il n'a pas choisi un peuple, il a juste choisi un homme. Un homme qui habitait, verset 31 du précédent chapitre, nous dit qu'il habitait en Chaldée, donc la région d'Irak moderne, vers la région de Bassora, de Babylone, aujourd'hui. Ils sortirent ensemble d'Ur des Chaldéens pour se rendre au pays de Canaan. Abraham, lorsqu'il reçoit cette promesse, est déjà âgé de 75 ans. Il a un neveu, Lot. Et verset 5, Abraham prit sa femme Sarai et son neveu Lot, tous les biens qu'ils possédaient et le personnel qu'ils avaient acquis à Haran. Donc avant d'aller directement en Canaan, comme Dieu lui avait demandé, il avait séjourné, il n'avait pas obéi complètement. Il s'était un peu arrêté à Haran, ou Haran, suivant les prononciations. Et là, il avait prospéré. Et puis finalement, verset 5, ils sortirent pour se rendre dans le pays de Canaan. Ils arrivèrent donc au pays de Canaan. L'Éternel, Abraham, verset 6, traversa le pays jusqu'à l'endroit nommé Sichem, jusqu'au chêne de Moré, ou de Mamré, on dit dans d'autres versions. Les Cananéens habitaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit : Je donnerai ce pays à ta descendance. Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Puis il leva son camp de là pour se rendre dans les montagnes à l'est de Bethel. Il dressa sa tente entre Bethel et à l'ouest et à Haï à l'est. Il bâtit là un autel à l'Éternel et invoqua le nom de l'Éternel. Abraham repartit en se rendant par étapes vers le Négev, ou Négeb, c'est-à-dire vers le sud. Donc on voit Abraham qui commence à obéir, qui descend où Dieu l'a envoyé, ça fait un long chemin, mais il était parti, encore une fois c'est dans la lettre aux Hébreux qu'il est dit qu'il était parti sans savoir où il allait. C'est Hébreux 11, 8. Hébreux 11, 8 qui parle de ces événements dans le Nouveau Testament dit « C'est par la foi qu'Abraham obéit à l'appel de Dieu en partant vers un pays qu'il devait recevoir en héritage et il partit sans savoir où il allait. » D'où le nom de sermon dont je vous ai parlé. Il y a une famine dans le pays de Canaan, la Palestine d'aujourd'hui, et il descend donc en Égypte pour y séjourner car là-bas il y avait encore du blé. Et là, on parle souvent de la foi d'Abraham, qui était un grand homme de foi. On sait que sa justice, le fait que Dieu l'ait accepté comme un juste, ça venait du fait qu'il avait la foi. Et on dit, il y a même un passage qui dit sa foi lui fut comptée comme justice. Il lui fut crédité comme s'il était juste. Et en fait, on voit que c'était pas... Sa foi était loin d'être parfaite. Il y avait des moments où il doutait, où il avait peur. Et là, notamment auprès des Égyptiens, sa femme Sarai était apparemment une très jolie femme. Il avait peur que les rois d'Égypte la prennent comme sa propre femme et le tuent. Donc il avait dit à sa femme de dire dis simplement que tu es ma sœur. Et lorsque le pharaon voit la femme de Sarai, la femme d'Abraham, il la fait aller dans son palais. Et à ce moment-là, Dieu intervient et il y a des plaies qui touchent l'Égypte. Et le roi Pharaon, se rend compte de la supercherie d'Abraham et lui dit « Pourquoi est-ce que tu m'as fait ça? Pourquoi tu ne m'as pas déclaré qu'elle était ta femme ?» Et c'est là que le pharaon lui le fait repartir. Et on pense que là, il avait déjà, en désobéissant, il avait ramené une esclave avec lui, avec sa femme, qui allait causer des problèmes plus tard. Il se sépare, il est avec son neveu, il remonte dans le sud d'Israël, dans le sud de la Palestine. Et là, il y a une remarque, verset 2, Abraham était très riche en cheptel, en argent et en or. Il se rendit par étapes, verset 3 du chapitre 13, par étapes du Négev jusqu'à Bethel, à l'endroit où il avait dressé sa tente au commencement, entre Bethel et Haï. Et donc, bien remarqué que Abraham était un homme très important, très riche, qui avait des soldats, on le verra plus loin. Et il est dit que son neveu Lot avait du bétail aussi, et ils avaient du mal à faire paître tous leurs troupeaux sur le même terrain. Et à un moment, Abraham offre à Lot de choisir le territoire qui lui conviendrait. C'est là que Lot regarde le terrain qui a l'air le plus verdoyant et il va vers Sodome et Gomorre. Et Abraham, lui, reste dans le pays de Canaan. Suite à cette séparation, il y a la guerre des rois au chapitre 14. Il y avait quatre rois qui faisaient la guerre à cinq autres rois. Et il y avait un certain roi dénommé Kedorlaomer, le roi d'Élam, qui avait finalement pris Lot, qui avait capturé Lot. Et donc, Abraham, lorsqu'il entend ça, va mettre 318 soldats, c'était énorme à l'époque, c'est verset 14. Dès qu'Abraham apprit que son neveu avait été capturé, il arma 318 de ses plus braves serviteurs nés dans sa maison, et il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Il divise sa troupe et il ramène Lot, son frère avec son neveu avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. Donc il va récupérer ce neveu qui avait été capturé. Et on a parlé de la dîme dimanche dernier. C'est là que la dîme est instituée dans les versets 17 à 24. Il rencontre, après avoir remporté cette victoire sur Kedorlaomer, le chef des rois qui se battait contre lui, contre Lot, il y a un certain Melchizedek, verset 18, roi de Salem, qui fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Il bénit Abraham et dit « Béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. » Béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré les adversaires entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme, c'est-à-dire un dixième de tout ce qu'ils avaient ramené. Le roi de Sodome dit à Abraham, donne-moi les personnes et prends pour toi les biens. Abraham répondit au roi de Sodome, je lève les mains vers l'Éternel, le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fils ni une bride de sandales, pour que tu ne puisses pas dire j'ai enrichi Abraham. L'épisode est intéressant parce qu'il nous présente ce personnage mystérieux, ce Melchizedek. S'il n'y avait que ce passage dans la Bible parlant de Melchizedek, on n'en parlerait sans doute pas ce soir. Mais Melchizedek, il en est question dans d'autres passages, dans les psaumes, le psaume 110, verset 4. L'Éternel l'a juré et ne le regrettera pas, tu es sacrificateur pour toujours à la manière de Melchizedek. Ça c'est une prophétie, une parole pour Christ, qui est un sacrificateur, un prêtre comme Melchizedek. Il en est question à plusieurs reprises dans la lettre aux Hébreux, si vous voulez noter des passages, chapitre 5, versets 6 et 10. Chapitre 6, verset 20, chapitre 7, verset 1, 10, 11, 15 et 17. Ce Melchizedek, c'était donc le roi de Salem. Salem, ça va devenir la ville de Jérusalem, que David prendra pour capitale du royaume d'Israël. Donc c'est un roi, et c'est aussi un sacrificateur, c'est-à-dire un prêtre. Un prêtre qui faisait des sacrifices, c'est un prêtre du Dieu Très-Haut. Et par ailleurs, il est indiqué dans Hébreu qu'il y a une opposition entre sa prêtrise, la prêtrise de Melchizedek, et la prêtrise de Lévi, les descendants d'Aaron. Et quelque part, il est expliqué qu'en fait, le fait que, on va voir, Abraham paye Melchizedek, or Abraham allait être l'ancêtre de Lévi, par Isaac, Jacob, Lévi et tous les descendants, les Lévites qui allaient être les prêtres. Et il est dit qu'en fait, lorsqu'il a payé la dîme à Melchizedek, ce roi et ce prêtre à la fois, il avait en lui les Lévites. Ils allaient venir par sa semence, par sa génération. Et donc, quelque part, il dit c'est comme si les prêtres avaient payé la dîme à Melchizedek. Et c'est l'inférieur qui paye la dîme au supérieur. Donc ça veut dire que la prêtrise de Melchizedek, elle est supérieure à la prêtrise des Lévites. Et Jésus, sa prêtrise, elle est selon l'ordre de Melchizedek. Vous vous souvenez, le livre d'Hébreux, on en avait parlé l'an dernier, c'était le livre de la supériorité de Christ. Christ est supérieur aux anges, il est supérieur aux prêtres, il est supérieur à tous. Et il nous aime, il est notre grand prêtre. Donc, dans l'histoire de la Bible, il y a trois personnages qui sont à la fois roi et prêtre. Quels sont-ils? Je vous demande la question. Ce n'est pas une question piège, mais c'est important de bien réaliser ça. Trois. Oui, trois. Qui sont à la fois roi et prêtre. On vient d'en voir un. Comment il s'appelle? Melchizedek. Le deuxième, on en a parlé aussi un peu. C'est qui? Jésus. Jésus, il est aussi notre roi et il est le grand prêtre. Il est prêtre aussi. Maintenant, la question piège, c'est quel est le troisième personnage qui est à la fois roi et prêtre? David, il n'était pas vraiment prêtre. Il y avait des prêtres à Abiathar qui faisaient c'est vrai que David, le fils de David, c'est un peu. Mais c'est nous. C'est nous. Vous ne croyez pas?
Je vais y dire à sa maman pour quelle lettre.
Ah, N, Napoléon. Apocalypse 1. On peut lire à partir du verset 5. De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts et le souverain des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume. On est des rois. On n'habite pas dans le royaume, nous sommes un royaume. On est des rois et des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et le pouvoir au siècle des siècles. Amen. On est appelé à régner avec Christ lorsqu'il reviendra pour l'éternité. Mais déjà dans le tout début de la Bible, ce personnage, c'est une préfiguration de Christ. Et c'est aussi une promesse que nous aussi, nous serons, comme notre frère Christ, nous serons à la fois des rois et des prêtres. Est-ce que on peut dire que certains rabbins disent que Melchizedek, en fait, c'était Sem, un des trois fils de Noé avec Cham et Japhet. Le seul problème, c'est qu'il est dit par ailleurs que Melchizedek n'a pas de généalogie. On ne connaît pas ses parents ni ses descendants. Et c'est aussi. Certains se demandent est-ce que Melchizedek, c'est une pré-incarnation de Jésus ? Dans l'Ancien Testament, il est souvent question de l'ange de l'Éternel, qui peut être considéré à juste titre, je crois, comme une préfiguration ou une incarnation de Jésus avant qu'il vienne naître à Bethléem et qu'il vive ici-bas. Mais il avait cette faculté, je crois, de se présenter comme un ange de l'Éternel. Et certains pensent que peut-être Melchizedek, c'était aussi le Christ. Mais il est dit que la prêtrise de Jésus, elle est à la ressemblance de celle de Melchizedek. Elle n'est pas identique. Donc je ne pense pas que ce soit mot pour mot une préincarnation de Jésus. Mais c'est vrai qu'il est, un personnage mystérieux qui préfigure le Christ. Si vous vous souvenez, dans Jean, il y a un passage où Jésus a affaire avec les Juifs. Et on avait l'impression que Jésus prenait un malin plaisir à à s'aliéner les chefs religieux juifs en leur déclarant des vérités qu'ils ne pouvaient pas recevoir. On peut lire à partir du verset 48 dans Jean 8, page 115 dans la Bible à la Colombe. 115 dans la Bible à la Colombe à la fin, dans Jean, l'évangile de Jean. Les Juifs lui répondirent : N'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain et que tu as en toi un démon ? Jésus répondit : Je n'ai pas de démon, mais j'honore mon Père et vous me déshonorez. Moi, je ne cherche pas ma gloire, il en est un qui la cherche et qui juge. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Maintenant, lui dirent les Juifs, nous savons que tu as en toi un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi, et toi, si tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne goûtera jamais la mort, es-tu plus grand que notre père Abraham qui est mort ? Les prophètes aussi sont morts. Qui prétends-tu être ? Jésus répondit, si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie. Lui dont vous dites, il est notre Dieu. Et vous ne le connaissez pas. Moi, je le connais. Si je disais que je ne le connais pas, je serais semblable à vous, un menteur. Mais je le connais et je garde sa parole. Abraham, votre père, a tressailli d'allégresse à la pensée de voir mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham ? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, moi je suis. Là-dessus, ils prirent des pierres pour les lui jeter, mais Jésus se cacha et sortit du temple. Et donc, Abraham, Jésus fait allusion à un épisode où il a vu Abraham, où Abraham l'a vu. Et on peut penser que peut-être c'est ce Melchizédek, et donc... La question reste de savoir toujours si c'est Jésus ou pas, mais c'est ce qui rendait furieux les Juifs lorsqu'ils disaient qu'Abraham avait vu Jésus. Le chapitre 15, Dieu va continuer sa promesse, il va reformuler sa promesse de lui donner de nombreux héritages. Abraham voulait croire Dieu, mais en même temps, sa raison l'empêchait de croire Dieu. Et en ça, il nous ressemble. On veut croire à Dieu, on pense qu'on a la foi, que si Dieu nous dit de faire quelque chose, si Dieu nous donne une vision, il peut l'amener à bout. Mais en même temps, on a tendance à se dire, comment est-ce que Dieu va pouvoir faire ça ? Et on se dit, non, ça ne va pas être possible. Donc, peut-être qu'il va le faire d'une autre façon, ça ne va pas être moi. Il avait promis une descendance à Abraham. Et verset 1 du chapitre 15, « Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision en ces termes. « Sois sans crainte, Abraham, je suis moi-même ton bouclier et ta récompense sera très grande. » Abraham répondit, « Seigneur Éternel, que me donneras-tu ? « Je m'en vais sans enfant. » Il avait dépassé les 70 ans, 75 ans, il n'avait toujours pas d'enfant. « Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. » Il ajouta, « Tu ne m'as pas donné de descendance et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. » Donc il se dit, « En fait, j'ai pas d'enfant, je suis trop vieux pour avoir des enfants. Donc maintenant je comprends ta promesse. » Tu vas la faire par mon serviteur qui va être mon héritier parce que je n'ai pas d'autre personne à qui passer mon héritage. Et c'est lui qui va avoir des enfants, c'est lui qui va être le père d'une grande descendance. Mais verset 4, l'Éternel lui adressa la parole et dit, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais bien celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Tu vas vraiment avoir un enfant. Et puis, pour ajouter à la promesse, il le mène dehors et lui dit, contemple donc le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il ajouta, telle sera ta descendance. Ça, c'était absolument incroyable. Même aujourd'hui, on aurait du mal à accepter cette promesse quand on a plus de 70 ans, 75 ans, j'ai pas fait le calcul exact. On peut le faire pour voir quand cette parole est annoncée. Il lui dit, regarde toutes ces étoiles, tu vas avoir plus d'héritiers par ton physique propre, tu vas avoir des héritiers plus nombreux que les étoiles. Seigneur, il doit y avoir un truc que je ne comprends pas. Et nous aussi, on fait ça. Mais, verset 6, Abraham crut en l'Éternel qui lui compta comme justice. Et c'est le verset dont je parlais qui est repris dans Romains, dans Hébreu. C'est la foi en Dieu, la foi en ses promesses qui peut nous permettre d'être acceptés comme justes. Si on croit que Jésus-Christ est mort pour nos péchés, qu'il est ressuscité, qu'il est assis à la droite du Père, alors si on a la foi en lui, si on a la foi en ce qu'il a fait, alors Dieu nous considère comme des justes, nous accepte, il déclare « bon, vous pouvez être en ma présence, sinon il doit nous détruire avec le péché ». Alors, pour symboliser cette promesse, Dieu lui dit, il lui dit encore, « Je suis l'Éternel qui t'a fait sortir d'Ur des Chaldéens pour te donner ce pays en ta possession. » Abraham répondit, « Seigneur Éternel, verset 8, à quoi reconnaîtrai-je que je le posséderai ?» Intéressant, à l'époque, il y avait du polythéisme, donc il y avait des dieux un peu partout. Aujourd'hui encore, il y a des pays où les religions sont polythéistes. Au Népal, la religion traditionnelle, il y a des milliers de dieux qu'il faut tous apaiser, qu'on n'est jamais sûr si on n'en a pas oublié un qui va nous jouer un mauvais tour. Mais là, Dieu précise à Abraham, tu te rappelles quand tu as entendu quelqu'un te demander de partir, ben je suis toujours ce Dieu-là. Il n'y en a pas 50, je suis l'Éternel. Et Abraham, dont on dit que sa foi lui a été comptée comme justice, il dit, est-ce que je vais savoir que je vais vraiment posséder le pays dont tu m'as parlé, ce pays de cette terre promise, comme on l'appelle quelquefois, parce que c'était le fruit l'objet d'une promesse de Dieu. Et là, Dieu va lui signer un contrat de confiance. C'est pas d'arty. C'était une façon à l'époque de s'engager. Aujourd'hui, on signe des contrats. Certains ont signé des bails pour louer un appartement. Des fois, il faut un garant, une autre personne qui signe. Là, à l'époque, quand on signait un contrat, quand on signait une alliance avec quelqu'un, on offrait à Dieu des sacrifices qu'on coupait en deux, et puis on passait entre ces morceaux de sacrifice, les deux personnes qui avaient signé le contrat, passaient entre ces deux morceaux, entre les morceaux, et faisaient ainsi des parcours, un peu comme des huit, et repassaient entre eux pour dire que c'était comme s'ils signaient physiquement par une démarche gestuelle précise, qu'ils signaient leur accord. Aujourd'hui, sur Internet, on ne vous demande pas de passer entre l'unité centrale et le clavier pour signer un contrat. On vous demande de cocher une case et de dire que vous acceptez toutes les conditions que vous promettez d'avoir lues. Il y en a qui ont déjà coché des cases sans avoir lu toutes les conditions. Là, il fallait faire cette cérémonie, ce rituel, et une chose est étrange, Dieu dit à Abraham de prendre une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle, une jeune colombe pour les offrir. Il prend tous ces animaux, les coupe par le milieu, il les met de face à face avec un passage au milieu. Il y a même des oiseaux de proie, des vautours, des corbeaux qui essayent de venir manger. Abraham les chasse. Et là, Dieu va faire quelque chose de bizarre. Il endort Abraham. Au coucher du soleil, Abraham fut accablé de sommeil et aussi de frayeur dans l'obscurité profonde. Et en fait, Abraham va dormir pendant cette signature de contrat, et c'est Dieu tout seul qui va signer cette alliance. Il va donner un songe. Il est accablé de sommeil. L'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront des immigrants dans un pays qui ne sera pas le leur. Ils y seront esclaves et on les maltraitera pendant 400 ans. Ça, c'est l'exil en Égypte qui est déjà prédit ou prophétisé par Dieu. Mais je jugerai la nation dont ils auront été des esclaves et ils sortiront ensuite avec de grands biens. Toi, tu mourras en paix, tu seras enseveli après une heureuse vieillesse. À la quatrième génération, ils reviendront ici. C'est alors seulement que la déchéance morale des Amoréens aura atteint son comble. Ça sera la période où le peuple de Canaan aura commis de tels péchés, une telle déchéance que Dieu donnera à son peuple l'ordre de les détruire. C'est le verset 17 qui nous explique quand le soleil fut couché et l'obscurité devint profonde, alors une fournaise fumante et des flammes passèrent entre les animaux partagés. Et ça, c'était Dieu qui signait l'alliance avec Abraham en disant, verset 18, « Je donne ce pays à ta descendance depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, à savoir l'Euphrate, le pays des Kéniens, des Kénisiens, des Cadmonéens, des Hittites, des Phéréziens, des Réphaïm, des Amoréens, des Cananéens, des Guergasiens, des Yébousiens, etc. » Il promet un territoire qui n'a jamais été possédé en fait par Israël jusqu'à présent. C'est un pays qui allait de la mer Méditerranée jusqu'à l'Euphrate et qui aurait été de l'Égypte jusqu'à la Syrie et même au temps du roi Salomon où le royaume d'Israël a été à son summum. Tout le pays n'était pas encore possédé. Ça nous rappelle que le territoire d'Israël c'est pas laissé à l'ONU, à la Société des Nations. C'est Dieu qui a promis un territoire et il a donné des dimensions précises, claires. Et un jour, Israël aura un territoire comme ça. Sans doute lorsque Christ reviendra régner sur la terre. Ça ne veut pas dire qu'on doit aujourd'hui tuer, tout exterminer les Palestiniens, ne pas leur donner du territoire, mais savoir que Israël, le territoire, que cette terre promise, c'est vraiment une promesse de Dieu. Souvent les hommes disent on va diviser Jérusalem, je ne crois pas que ça puisse arriver, ou ça arrivera avec la fin des temps, avec des grands bouleversements. Prophétique, parce que c'est pas un homme qui a promis ça, c'est Dieu lui-même. Donc l'alliance avec Abraham, c'est la terre promise, c'est aussi le fait qu'après un exil en Égypte pendant 400 ans, ils reviendront en terre promise. Et puis ils reviendront avec de grandes richesses. Pour Satan, ça veut dire qu'il savait qu'il avait 400 années pour dérouter le peuple de Dieu quand il sera en Égypte, pour l'empêcher de revenir. Et on sait qu'il a fait tout ce qu'il a pu pour éviter que le peuple meure par manque de foi dans le désert, etc. L'alliance faite à Abraham, elle est éternelle, elle est inconditionnelle. La seule chose qu'il demandait à Abraham, comme tu l'as dit, Frédéric, c'était de partir et d'obéir en étant une bénédiction pour les autres. Mais il n'y avait pas de dire il faudra faire des sacrifices, il faudra faire. C'était pas du tout comme on l'imagine en pensant à l'Ancien Testament. C'est confirmé dans la Genèse 22 et 26 à Isaac, le fils d'Abraham, et à Jacob. Et cette promesse, quand elle était confirmée à Isaac et à Jacob, eux non plus n'obéissaient pas à Dieu. Ils ne marchaient pas dans les voies de Dieu parfaitement, ce qui montre bien que cette promesse, elle n'était pas conditionnée par leur mérite ou leur façon de vivre pour Dieu. Cette promesse, elle est répétée dans Hébreux 6 en disant qu'elle est immuable. Et toutes les bénédictions, en fait, elles dérivent de cette alliance. Cette promesse de première bénédiction, c'est dans la Genèse 12 qu'on la voit. Dans la Genèse 17, on voit Abraham, son nom voulait dire « Père exalté ». Ça devait être déjà un nom difficile à porter, sachant qu'il n'avait pas d'enfant. Super papa, il avait un t-shirt qui disait « Super papa ». Mais il n'avait pas d'enfant. Et la Genèse 17, Dieu lui dit, lorsqu'Abraham est âgé de 99 ans, l'Éternel lui dit, c'est les chapitres 17, l'Éternel lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance avec toi et je te multiplierai à l'extrême. Pour moi, voici mon alliance avec toi. Tu deviendras le père d'une foule de nations. On ne t'appellera plus du nom d'Abraham, mais ton père, ton nom sera Abraham. Car je te rends père d'une foule de nations. Je te rendrai extrêmement fécond. Je ferai de toi des nations, des rois sortiront de toi. Encore une fois, il n'avait pas d'enfant. Et il voulait croire à cette promesse. Il disait peut-être que par mon serviteur, Dieu va accomplir cette promesse. Mais là, Dieu lui dit, non seulement je t'ai appelé super papa, mais tu vas être papa d'une foule. Abraham, ça veut dire père d'une multitude. Et le H qui est ajouté, en hébreu, c'est la lettre He, qui est comme un souffle. He. Comme on pourrait voir là l'adjonction, l'addition dans la vie d'Abraham de l'Esprit Saint. Sarai, sa femme, elle s'appelait Sarai, verset 15, Dieu dit encore à Abraham, pour ce qui est de ta femme Sarai, tu ne l'appelleras plus Sarai, mais son nom sera Sarah. Sarah, ça veut dire princesse. Avant, ça voulait dire simplement noble, distinguée. Et puis Dieu va promettre à Sarai, je la bénirai, verset 16, et je te donnerai d'elle aussi un fils, je la bénirai, elle donnera naissance à des nations. Les rois de plusieurs peuples sortiront d'elle. Abraham tomba face contre terre, il rit. Verset 10. Et rit et dit en son cœur, naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans, et Sarah, âgée de 90 ans, accoucherait-elle? Pour appeler à Dieu qu'en fait, ou se dire, mais Sarah, ça fait longtemps qu'elle a passé la ménopause. Moi, j'ai 100 ans. Comment est-ce que je pourrais avoir un fils avec ma femme? On sait que, au chapitre 16, Sarah avait voulu aider Dieu. Sarah et Abraham avaient voulu aider Dieu. En utilisant la coutume qui voulait qu'on puisse avoir un homme puisse avoir un fils, un héritier avec une servante de sa femme, que sa femme pouvait adopter comme son héritier, son fils. Et là, Abraham a eu un enfant avec sa servante Agar qu'il avait ramenée d'Égypte lorsqu'il était parti, qu'il avait menti sur l'identité de sa femme en disant qu'elle était sa sœur. Il avait ramener cette servante égyptienne et de leur union était né Ismaël à l'âge de 86 ans pour Abraham. Et c'est d'Ismaël qu'est né le peuple arabe que Dieu a par ailleurs béni. La femme d'Abraham a chassé sa servante parce que sa servante ayant un enfant se sentait supérieure à sa maîtresse et ça ne marchait pas entre les deux femmes. Donc elle l'a envoyée. Dieu a pourvu aux besoins de Sarai dans le désert. Mais encore une fois, Dieu a promis un vrai fils à Abraham. Et ça va être la naissance d'Isaac au chapitre 18 de la Genèse. Il y a une rencontre de Sarah et d'Abraham avec trois anges. Au chapitre 18, au chêne de Mamré, l'Éternel apparaît. Il y a trois hommes qui viennent et qui rencontrent Abraham. Abraham les reçoit et l'un d'eux dit: l'an prochain, quand on reviendra, Sarah aura un fils. Et là, Sarah, là non plus, ne. Verset 12, elle rit aussi en disant c'est bien gentil, mais comment est-ce que je pourrais avoir des désirs sexuels? Mon Seigneur aussi, c'est ainsi qu'elle appelait son mari, aussi est vieux. Et l'Éternel les entend rire et il dit: pourquoi est-ce que Sarah a ri? Je suis trop vieille pour avoir un enfant. C'était un manque de foi. Et là, verset 14 du chapitre 18, « Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? L'année prochaine, au temps fixé, je reviendrai vers toi et Sarah aura un fils. » Sarah dit: « Mais non, j'ai pas ri. » Et l'Éternel lui dit: « Mais si, tu as ri. » Et donc, Dieu lui a promis un fils et Dieu va lui donner un fils qu'ils vont appeler Isaac, qui veut dire « rire ». Parce qu'ils se rappellent qu'ils ont ri par manque de foi. Et ils vont continuer, donc le récit va continuer, toujours en se centrant sur les familles qui vont mener finalement au Messie. Donc là, on a maintenant un épisode de Abraham avec la ville de Sodome. La ville de Sodome qui était connue pour son péché d'homosexualité. C'était pas le péché d'homosexualité. C'était en fait que c'était institué comme une chose normale et que c'était en vogue dans toute la ville. C'était pratiqué, c'était accepté, encouragé même. Et Abraham dit qu'il va détruire cette ville. Et Abraham se demande s'il n'y a pas... Il fait un marchandage avec Dieu. Il se dit, s'il y avait 10 justes, 10 hommes qui ne pêchent pas ainsi, si... Il commence avec... Verset 24, 18, 24, chapitre 18, verset 24, verset 23, Abraham s'approcha et dit: feras-tu aussi succomber le juste avec le méchant? C'est pas le caractère de Dieu de punir les bons avec les méchants. Il le savait quelque part, déjà Abraham. Et il propose à Dieu un petit marché. Il dit: si on avait 50 qui soient bien, des justes, des gens qui te respectent, qui t'honorent, est-ce que tu pardonnerais pas à toute la ville? Et l'Éternel répond: oui, si je trouve au milieu de la ville 50 justes, je pardonnerai à toute la localité. Puis Abraham dit: suppose qu'il y en ait, peut-être qu'il y en aura. Il n'y en aura que 45. Et l'Éternel dit: s'il y en a 45, c'est bon, je sauverai la ville. Puis Abraham continue de marchander et Dieu dit: s'il y en a 40 aussi, c'est bon. S'il n'y en avait que 30, s'il n'y en avait que 20, s'il n'y en avait que 10, l'Éternel dit: je ne la détruirai pas à cause de ces 10. Et puis, finalement, il va faire sortir Lot, son neveu, de la ville, et là la ville va être détruite. Et ça, c'est aussi dans tout l'Ancien Testament, on a ce qu'on appelle les types, les préfigurations. Le mot type, ça vient du grec tupos, c'est une empreinte dans le sol. Quand il y a un loup qui marche dans la neige, on voit un type. Et donc ça, c'est comme si ce sont des marques qui montrent quelque chose, une réalité supérieure, une réalité qui sera révélée plus tard. Mais cet exemple de cette ville qui doit être punie, est-ce qu'elle va être sauvée s'il y a quelques justes ? Dieu dit oui. Et ça, c'est un très fort argument dans le fait que pour la grande tribulation, l'Église, le peuple de Dieu, va être enlevé avant que la colère de Dieu ne se déchaîne contre le monde à l'époque de la grande tribulation. Christ, c'était un peu ce juste qui était là jusqu'à un moment, mais maintenant c'est son peuple qu'il va devoir enlever avant de punir. Lot, c'était le seul juste. Pierre l'appelle Lot le juste, profondément affligé par la conduite déréglée de ses criminels. En fait, on va voir que Lot, lorsqu'il reçoit des invités, il est même prêt à leur donner des filles, de ses filles, pour qu'ils aient des relations sexuelles, mais qu'ils n'attaquent pas les hommes. Les habitants de Sodome assiègent la maison où il vient de recevoir les envoyés, les deux anges qui arrivaient à Sodome, chez Lot. Et Lot, pour respecter la tradition d'hospitalité, il veut préserver ces deux personnes. Mais il est prêt à donner à la foule qui veut avoir des relations homosexuelles avec ces deux anges, il est prêt à leur donner ses propres filles. Et pourtant, ça montre comment il avait été affecté par la mentalité pervertie de Sodome et de Gomorre. Et l'homosexualité est toujours dans l'histoire, est toujours un signe de dégradation morale. À Rome, la chute de l'Empire romain, l'homosexualité était devenue une vertu presque. Les empereurs s'y livraient, les poètes les plus réputés prêchaient l'homosexualité, s'y livraient, s'y adonnaient. Aujourd'hui, le maire de la capitale de notre pays est ouvertement homosexuel. Il y a des manifestations en faveur de l'homosexualité pour qu'elle soit reconnue. Et encore une fois, je n'ai rien contre les homosexuels, ce sont des hommes pour qui Dieu est mort, mais l'homosexualité, je suis désolé, c'est pas quelque chose, c'est un péché, c'est une abomination aux yeux de l'Éternel. C'est quelque chose, sans doute, je pourrais être poursuivi pour dire des choses pareilles, mais c'est la Bible. La loi, on le verra plus loin, elle est apparue 430 ans après les promesses faites à Abraham. Donc la loi, elle ne peut pas annuler, il n'y a pas de condition. Ces promesses faites à Abraham, elles sont valables. C'est Paul qui nous dit ça dans Galates 3:17. Un testament déjà établi en bonne forme par Dieu ne peut être annulé par la loi survenue 430 ans plus tard, ce qui anéantirait la promesse. La promesse faite par Dieu à Abraham de bénir sa descendance, de le rendre très nombreux, de rendre sa postérité très nombreuse, de lui donner ce territoire, de bénir les autres nations s'il les bénissait, c'est une promesse inconditionnelle. Dans la Genèse 22, il y a un passage un peu difficile, qui est repris par l'islam aussi. C'est Dieu qui met Abraham à l'épreuve en lui demandant d'aller sacrifier son fils qui lui a promis depuis plus de 25 ans, qui est finalement arrivé. Il lui a dit qu'à travers lui, il allait avoir des rois, il allait avoir des nations plus nombreuses, des gens plus nombreux que les étoiles qu'on peut voir dans une belle nuit étoilée au Moyen-Orient. Et là, il lui demande de sacrifier son fils. Et là, il l'envoie sacrifier son fils sur le mont Moria. On pense que c'est la même chose que le mont Golgotha. Quand on va en Israël, il nous montre le mont Moria, il nous montre comment Israël a été, Jérusalem a été étendue, aplanie, il y a eu des matériaux qui ont été rajoutés, et finalement le mont Moria, c'est sans doute le mont Golgotha où Jésus-Christ a été sacrifié. Et Abraham, comment est-ce qu'il pouvait réconcilier dans son intelligence le fait que Dieu lui avait promis une grande descendance par cet enfant, et puis lui demande d'aller le sacrifier? Il est dit dans un autre passage dans le Nouveau Testament qu'en fait, il pensait, c'est en Romain, dans l'hébreu, il pensait qu'en fait Dieu est capable de ressusciter, était capable de ressusciter son fils Isaac. Et je crois que c'est Hébreux 11, par la foi qu'il crut. Voilà, c'est par la foi, verset 17 du chapitre 11 de Hébreux, je peux vous le lire. C'est par la foi qu'Abraham, mis à l'épreuve, a offert Isaac. C'est son fils unique qu'il offrait, lui qui avait reçu les promesses. Et à qui il avait été dit, c'est par Isaac que tu auras une descendance qui porte ton nom. Et l'explication, c'est il comptait que Dieu est puissant, même pour faire ressusciter d'entre les morts. C'est pourquoi son fils lui fut rendu. Il y a là un symbole. C'est aussi bien sûr un type du père qui sacrifie son fils et qui le ressuscite. Là, on sait dans ce cas que Abraham voit son bras retenu par un ange de l'Éternel et qu'il ne sacrifie pas, il ne met pas à mort son propre fils. Mais il était prêt à le faire, et ça c'était l'épreuve que Dieu voulait lui faire passer. Il est un père qui n'a pas retenu son bras, qui a vraiment sacrifié son fils. Le père a sacrifié Jésus, son fils unique, pour que tous ceux qui croient en lui ne périssent point, mais qu'ils aient la vie éternelle. C'est une très belle image, bien sûr, de l'amour du père pour son fils, qui va sacrifier son propre fils. Il n'y a pas de sacrifice qu'on puisse demander qui soit plus grand que ça, je crois. Oui.
C'est-à-dire que c'était la consolation d'Abraham que Dieu a pu ressusciter son fils, et c'est pour ça que c'était quelque chose qu'il a cru, qu'il lui a donné la force à le faire.
Oui. C'est ce que la Bible explique, c'est qu'il ne comprenait pas, mais il avait déjà cru que Dieu lui donnerait une descendance. Il avait mis sa foi déjà en Dieu, et ça lui avait été déjà compté comme justice, il était déjà considéré juste. Et Dieu refait ce test, il lui demande de mettre à mort son propre fils. Et c'est la lettre aux Hébreux qui nous explique, en fait, il avait pu le faire parce qu'il se disait, bon, ben, j'y comprends rien, mais si Dieu est capable de me donner un enfant, il est aussi capable de le faire ressusciter. Et je crois à sa promesse. Et donc, ça lui avait permis de faire ce geste insensé, d'être prêt à sacrifier son propre fils. Mais on a le bénéfice du Nouveau Testament et de la lettre aux Hébreux qui nous dit que c'est parce qu'il pensait que Dieu était capable de ressusciter son fils. Donc, il a dit, écoute, je te fais confiance. Et ça, c'est vraiment faire confiance. Il faut vraiment être prêt à... C'est le père des croyants. Sa foi n'était pas parfaite. On a vu, il y a plusieurs épisodes. Mais là, il avait, sa foi avait grandi au point où il était prêt à dire, bon ben, Seigneur, je ne sais pas comment tu vas faire, mais tu me demandes de faire ça, je vais le faire. Ça aussi, ça peut nous parler, ça peut nous, dans des situations, dire, bon ben, je ne vois pas comment tu vas pouvoir nous soutenir, moi, ma femme et mes deux enfants, mais c'est ton problème. Le dollar a remonté un petit peu, peut-être que ça va t'aider, Dieu, mais je ne sais pas, mais par la foi, je continue. Et... 11. Genèse 22, 2. C'est la première fois dans la Bible qu'il est question d'amour. Il y a une règle très importante dans la Bible, c'est de qu'on appelle la loi de la première mention, de la première occurrence de quelque chose. Et c'est toujours important de voir où est-ce qu'il est d'abord question d'un sujet, d'un thème. Et le sujet de l'amour, la première fois qu'il en est question, c'est au verset 2. Lorsque Abraham reçoit cet ordre de Dieu, qui lui dit « Prends donc ton fils, ton unique, celui que tu aimes. » C'est la première fois que le mot « amour, aimé » est utilisé. Isaac. « Va-t'en dans le pays de Moria et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. » Il lui dit que c'est son seul fils. On peut se dire, mais attends, il y avait son autre fils Ishmaël, qui était le fils qu'il avait eu avec Agar. Mais pour Dieu, les œuvres de la chair ne comptent pas. Il y a le fils de la promesse, le seul vrai, c'est la promesse. L'autre, c'était l'homme et c'était Abraham et sa femme Sarai qui avaient essayé d'aider Dieu, qui avaient par leur vieille nature essayé de dire, je ne peux plus, mais tiens, il y a cette jeune servante, peut-être elle peut te donner un enfant, et comme ça on aura un fils dont Dieu nous parle depuis 25 ans. Mais pour Dieu, il n'y avait que le fils de la promesse. Les œuvres de la chair, ce qu'on peut utiliser, ce qu'on peut faire, ça ne vaut rien du tout. Mais il est dit aussi, lorsque Abraham part avec Isaac, il y a les deux serviteurs qui restent en bas. Isaac demande à son père où est l'agneau. Et verset 8 du chapitre 22, Abraham répondit, « Mon fils, Dieu va se pourvoir lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. » Parce que on pense qu'Isaac n'était plus tout jeune, il avait plutôt une vingtaine d'années. Et il réalise, en fait, c'est bien beau, on a pris du bois, mais on n'a pas d'animal pour à sacrifier. Qu'est-ce qui se passe ici? On a un problème. Et Abraham lui dit pas, c'est toi qu'on va. Il aurait eu peur peut-être qu'il s'en aille, qu'il parte en courant. Dieu va se pourvoir lui-même. Là, la traduction dit va se pourvoir lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Et on sait que plus haut sur la montagne, une fois qu'il retient sa main, il y a un bélier qui est pris dans les buissons, et donc c'est l'animal qui est offert à la place de son fils. Mais c'est aussi une autre façon de le lire, c'est Dieu va s'offrir lui-même, il va se pourvoir lui-même, et ça c'est la prophétie du sacrifice de Dieu qui s'offre en la personne de Jésus-Christ. Dieu est venu mourir pour nos péchés en la personne de Jésus-Christ. Il a pourvu lui-même l'agneau, donc qu'on a chanté tout à l'heure, l'agneau pour l'Holocauste. Ça aussi, c'est un type de, une préfiguration du sacrifice du Fils par le Père. Et donc, c'est au même endroit où il y allait avoir un sacrifice pour le péché du monde. Abraham a été retrouvé par Isaac plus loin le troisième jour. Dans la Genèse 24, il est question du serviteur qu'on a, Eliezer, qui va chercher une épouse pour Isaac. Et Abraham, c'est un type, une préfiguration du Père, de Dieu le Père. Isaac, c'est une préfiguration du type, plutôt un type du Fils. On a dit que c'était le Fils qui a été sacrifié, c'était comme Jésus-Christ. L'épouse dont il est question, c'est Rebecca, que Eliezer va aller trouver, c'est aussi un type de qui ? De l'Église, les noces de l'agneau. L'Église, les croyances, nous allons être l'épouse de Christ. L'Église, c'est l'épouse de Christ. Et ce qui est intéressant, c'est que Eliezer, qui vient chercher cette épouse, qui va chercher cette épouse, son nom signifie consolateur. Eliezer, c'est comme le Saint-Esprit qui vient chercher l'épouse pour le Fils du Père. Ah, c'est beau ça, non ? On ne va plus entendre parler d'Isaac jusqu'à son mariage. Isaac est invisible jusqu'à ce qu'il soit marié à sa fiancée. Jésus est parti, il ne va revenir que pour le mariage avec l'Église. On peut voir là aussi une analogie. Ensuite, il y a l'arrivée par le fils. Isaac a deux enfants avec Rebecca, qui sont Ésaü et Jacob, deux nations. Ésaü, c'était le premier-né, mais on sait que Jacob, lui, a dans le sein de sa mère, ils se disputaient déjà. Jacob avait retenu le pied de son frère pour sortir le premier et essayer d'être l'aîné. Jacob, ça veut dire de lui, d'ailleurs, celui qui triche, celui qui essaye de gagner de façon malhonnête. Le supplanteur, celui qui veut battre l'autre. On sait qu'il a pu s'emparer du droit d'aînesse, qui était l'aîné avait les plus grands droits sur la succession du père, en faisant croire pour un plat de lentilles. Il a dit, son frère aimait bien la bonne cuisine, il lui avait offert plutôt il avait offert à son père un plat de lentilles. Et il avait demandé la bénédiction de son père sur lui. Il avait mis même des peaux de bêtes sur lui pour faire croire qu'il était comme son frère poilu. Ésaü, c'était un chasseur qui aimait bien vivre au grand air. Et donc, il a triché et il a recueilli le droit d'aînesse. Jacob a dû travailler pendant 14 ans chez Laban pour épouser Rachel. Il a d'abord dû épouser Léa. Et il a travaillé dur pour pouvoir épouser Rachel, au total 14 ans. Deux fois des 7 ans. Il y a les questions des prophéties des semaines dans Daniel, des Shabuah, des septaines. Là aussi, il y a des analogies. Il y a 12 tribus qui vont naître. Des descendants plutôt de Jacob par quatre femmes, Léa et Rachel, mais aussi leurs servantes. Et il y a un très bon résumé, c'est dans Genèse 35, 22. Si vous voulez vous y retrouver dans les tribus d'Israël, Genèse 35... Verset 22, il y a les fils de Léa, Ruben, Siméon, Lévi, Judas, Issachar, Zabulon, les fils de Rachel, Joseph et Benjamin, les fils de Bila, une servante de Rachel, Dan et Nephtali, les fils de Zilpa, la servante de Léa, Gad et Aser. Joseph, après, a eu deux enfants, Éphraïm et puis Manassé. Lévi, c'était le prêtre. Et suivant les passages où on parle des tribus d'Israël, on parle souvent des 12 nations, des 12 tribus d'Israël. Mais vous verrez dans les passages que des fois c'est parce qu'on compte, on compte pas la tribu par exemple de Lévi, ou on compte pas celle de Joseph, mais on compte celle des deux frères. Et en fait, avec cette structure, on arrive toujours à compter 12 tribus, mais ce n'est pas toujours les mêmes. Et ça peut être un peu déroutant, mais vous pouvez toujours revenir à Genèse 35-22 pour bien vous rappeler qui est qui dans la descendance. Après, il y a tout l'épisode de Joseph, très riche, qui est chassé par ses frères parce qu'il leur faisait part de ses rêves et de domination, qui rendait furieux ses frères, qui le trouvaient orgueilleux. Il avait une tunique multicolore, ou le mot veut peut-être dire qu'elle était d'une seule pièce. Vous vous souvenez de l'histoire, ils le vendent en esclavage au lieu de le tuer, ils voulaient d'abord le tuer par jalousie. Ils le vendent, ils l'enferment, il est vendu à des caravanes de marchands qui finalement ils se retrouvent à servir le serviteur du pharaon. Il se retrouve en prison parce qu'il est injustement accusé d'avoir voulu violer la femme du général du pharaon, Potiphar. Mais à chaque fois, il est resté fidèle à Dieu dans toutes ses épreuves. Il se montrait digne il faisait confiance à Dieu et il travaillait du mieux qu'il pouvait. En prison, il avait été, avant d'être accusé injustement d'adultère, il avait travaillé très bien pour Potiphar, s'était élevé dans ses esclaves. Après, il avait prophétisé, il avait expliqué des rêves à deux grands personnages, dont un avait été mis à mort et l'autre avait été le boulanger et l'échanson, celui qui goûtait le vin et celui qui faisait le pain. Finalement, il avait été libéré après des années d'avoir moisi en prison et il était devenu en fait le premier ministre d'Égypte et c'est lui qui va pouvoir sauver ses frères et le peuple d'Israël parce qu'il sera en position d'être le premier ministre. C'est lui qui avait l'idée de mettre des récoltes en réserve lorsqu'il y avait des bonnes années en Égypte. Il était en fait le premier ministre d'Égypte. Et pour que quand il y avait des périodes difficiles, on puisse utiliser le blé qu'on avait gardé. On dit aujourd'hui, on parle de périodes de vaches grasses ou des périodes de vaches maigres. Ça, c'était suite au songe qu'avait eu les responsables. Et donc, Joseph a cette phrase, on termine par là, on a déjà dépassé. Lorsqu'il se fait reconnaître par ses frères qui sont venus chercher de l'aide en Égypte, il dit « Vous aviez formé le projet de me faire du mal, Dieu l'a transformé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui et pour sauver la vie d'un peuple nombreux. » Genèse 50-20. Et ça nous rappelle Romains 8, que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon ses desseins, son dessein. Souvent, il y a des choses mauvaises qui paraissent nous arriver, mais Dieu a la possibilité de transformer ces choses en bien et d'accomplir ainsi ses desseins. Ça, c'est un Genèse 50-20. Ça, c'est un passage très important qui peut être une source de confiance en Dieu lorsqu'on ne comprend pas. Les frères de Joseph voulaient lui faire du mal, ils étaient jaloux de lui, mais Dieu a permis qu'à travers cette haine, il y ait la provision pour sauver tout son peuple. Toujours dans l'idée de protéger la venue du Messie, toujours dans l'idée d'assurer la réalisation des promesses. Voilà, donc, on n'a que 24 heures. On s'est donné 24 heures pour tout voir. Et vous voyez déjà la richesse de l'histoire, qui est une histoire authentique, avec sa signification du Nouveau Testament, sa réalisation concernant Jésus et toutes les promesses qui nous sont faites dans l'Ancien, qui sont réalisées en partie dans le Nouveau, et toutes les promesses qui sont encore à réaliser. Lorsqu'on comprend bien la Genèse, on a la fondation pour recevoir toute la Bible. Comprendre qu'est-ce que nous dit la lettre aux Hébreux, qu'est-ce que nous dit Paul, c'est un passage clé. Et quand on arrive dans l'Apocalypse, on voit l'accomplissement final et on voit toute l'unité du message de Dieu. On voit vraiment qu'on peut, s'adonner à la lecture, à l'étude, à l'approfondissement de la Bible pour toute notre vie, en toute confiance que Dieu va nous nourrir, Dieu va nous enrichir et nous guider à travers sa parole.